L'histoire de la révolte de Corée est une bien curieuse histoire que l'on trouve dans le 16e chapitre du livre des Nombres. Elle a eu de grandes répercussions. On parle souvent de Corée dans la Bible et jusque dans le Nouveau Testament, où il en est question dans une des épîtres. On peut se demander pourquoi. Et le point de départ de mon questionnement a été, dans mon étude des psaumes, le fait de trouver sept psaumes, de 42 à 49, qui sont intitulés « Psaumes des fils de Corée ». Et personne ne sait vraiment pourquoi. Il y en a encore quatre autres, d'ailleurs, des psaumes 84 à 88. Et donc, j'ai essayé de reprendre l'histoire pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. En fait, donc, je vous résume, le peuple quitte l'Égypte sous la direction de Moïse et il va dans le désert où il va marcher un certain temps dans le but d'arriver en terre promise. Et là, le peuple est dirigé par Moïse. Aaron, le frère de Moïse, est le chef de la tribu de Lévi et donc le chef des prêtres. Et Corée, qui était un notable fort riche et puissant, se révolte contre Moïse et il va être englouti dans l'abîme avec tous ses biens. Alors, quelles étaient exactement les revendications de Corée? Eh bien, on les trouve dans le texte, et on le lit en détail, vous pourrez le faire. La première qui apparaît, c'est une remise en cause de l'autorité de Moïse et des prêtres. C'est-à-dire que Corée disait, après tout, on est tous prêtres, et donc on peut très bien se passer de la prêtrise d'Aaron et des Lévites. Ensuite, on y trouve aussi une remise en cause de Dieu lui-même. Ils sont là dans une situation difficile dans le désert et ils disent « Mais comment dire que Dieu existe alors que nous vivons dans les difficultés ?» Ensuite, les Corée et ses deux collègues, Abiram et Datan, regrettent le bon vieux temps. Ils disent « Après tout, en Égypte, au moins on avait des marmites pleines de viande et là on meurt de faim dans ce désert. » Donc ils pensent qu'ils auraient préféré ne pas partir. Bon, tout cela peut sembler sans importance, mais en fait, je crois qu'il se trouve là la liste des erreurs les plus graves en religion et des attitudes même existentielles qui peuvent nous précipiter dans l'abîme, c'est-à-dire dans la mort, dans la disparition et dans l'absurde. Autrement dit, il faut regarder de près ces erreurs de Corée et tous ces psaumes intitulés « Psaumes des fils de Corée » sont là pour dire que ces psaumes sont écrits pour nous parce que nous sommes tous des fils de Corée. C'est-à-dire que nous avons tous la tentation ou la tendance d'avoir les mêmes réactions que Corée par rapport à Dieu, par rapport à notre vie et par rapport au monde. Donc nous sommes tentés par les mêmes fautes. Et il faut voir effectivement comment on peut arriver à éviter ces fautes-là. Et je crois que les psaumes des fils de Corée, les psaumes 42 à 49, que je vous invite à relire tranquillement chez vous, je n'ai pas le temps de le faire là, sont les antidotes à ces tentations de Corée et de ses amis. Alors nous allons le voir. La première remise en cause de Corée est peut-être la plus grave, c'est de remettre en cause la puissance même de Dieu en considération de la situation pénible dans laquelle on se trouve ou des difficultés que l'on affronte. Ça, c'est le problème fondamental, je dirais, de la théologie, qui est le problème du mal. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux continuer à croire en Dieu quand je vois les difficultés que j'ai à affronter, quand je vois tout le mal que je dois subir et quand je vois que, dans le fond, notre situation est tout à fait mauvaise. Alors on me prêche un Dieu tout-puissant, un Dieu bon, mais comment puis-je croire en cela? C'est ça le problème de Corée et de ses amis. Alors évidemment, nous, il est assez facile de voir que leur requête est idiote. Parce que certes, le peuple est là dans le désert, mais on a envie de leur dire « Mais bande d'imbéciles, vous êtes là dans le désert, mais vous êtes en train de marcher vers la terre promise. Et le pays où coule le lait et le miel, il n'est pas derrière vous, il est devant vous. Et donc, ne vous arrêtez pas sur des apparences trompeuses, parce qu'en ce moment, vous avez une difficulté passagère, vous êtes en chemin. » Et ça, c'est peut-être la clé de tout. C'est qu'on est en chemin. et que par conséquent, le mal que l'on peut voir ou subir ne doit pas être compris comme étant la réalité dernière. On pourrait dire, certes, il y a du mal, mais notre vie, elle est dans une dynamique, si vous voulez. Toute notre vie ne se définit pas par le mal que nous sommes en train de subir. Et donc, il y a un avant, il y a un après. Et si aujourd'hui vous êtes triste, demain peut-être vous rirez. C'est ce que dit le psaume. Aujourd'hui, il sème dans les larmes et ensuite il récolte dans les cris de joie. Et par conséquent, il ne faut pas, croire que ce que l'on vit à l'instant soit le sens de toute sa vie. Mais on est dans un chemin, et ce chemin, nous pouvons le croire, a un sens par sa finalité, c'est-à-dire par là où l'on va. C'est là une réponse importante que l'on peut donner même au problème du mal, à ceux qui disent « comment croire en Dieu s'il y a du mal dans le monde ?» C'est de leur dire « mais attendez, là où nous sommes n'est pas le but de la création. On ne peut juger un créateur que sur une œuvre finie. Et nous ne sommes actuellement que dans une ébauche de monde. Le royaume de Dieu est à venir. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une ébauche de quelque chose. Donc il y a encore du mal, mais le mal qu'il y a encore n'est pas la volonté de Dieu. C'est une scorie, je dirais, qui est appelée à disparaître. C'est tout ce grand thème de ce qu'on appelle la création continuée chez les pères grecs de l'Église. Nous sommes en cours de route. Et donc, l'état actuel du monde n'est qu'un état transitoire. Et puis, peut-être aussi, faut-il passer parfois par un certain mal, par des épreuves ou des difficultés pour aller plus loin. Ça, on le sait. Et c'est vrai que s'ils veulent quitter l'Égypte pour aller à un endroit mieux, il fallait quand même qu'ils se mettent en danger, qu'ils se prennent en risque et qu'ils affrontent des difficultés. Celui qui n'affronte aucune difficulté ne fait que rester sur place et est resté comme un esclave, comme l'étaient les Hébreux en Égypte. Alors cela, intellectuellement, je peux le comprendre, mais néanmoins, je peux parfois avoir le sentiment, l'impression d'être abandonné par Dieu, et ça peut arriver. Et c'est là où ces psaumes des fils de Corée me soutiennent, parce que justement, on trouve dans ces psaumes le cri du croyant qui se sent abandonné par Dieu. Donc si vous avez ce sentiment, dites-vous que vous n'êtes pas le premier, mais que déjà dans les psaumes on le trouve, et que si on se sent abandonné par Dieu, le but c'est pas de se révolter contre Dieu, mais de prier pour lui demander son aide. C'est ce que l'on lit au psaume 44 par exemple, où le psalmiste dit « Lève-toi, pourquoi dors-tu Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance. » Voilà la prière de celui qui se sent abandonné. Mais la bonne nouvelle, évidemment, on la trouve un peu plus loin dans le psaume 46, qui est que même si vous pouvez avoir l'impression que Dieu vous laisse, j'ai la certitude et la conviction que je ne suis pas seul dans les difficultés. Et au psaume 46, le psalmiste dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même si la terre est bouleversée. Et même si les montagnes chancellent au creux des mers, quand leurs œufs grondent, écument ou ébranlent les montagnes en se soulevant. » La deuxième erreur de Corée, c'est la remise en cause du sacerdoce. Il dit « il n'y a pas besoin de prêtre, après tout, tout le monde peut faire le prêtre, et que tous les Hébreux sont égaux, ils étaient tous ensemble au pied du Sinaï, et par conséquent, il n'y a pas de raison de mettre des gens au-dessus des autres. » Ça, c'est un risque qui nous menace très fortement, nous les protestants, c'est le risque du sacerdoce universel. Parce que finalement, Corée, je le trouve très protestant là-dedans, en disant, après tout, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous papes, et on n'a pas besoin de gens qui s'agitent au-dessus de nous. Et donc, le risque du sacerdoce universel, c'est que si tout le monde est prêtre, alors il n'y a plus de sacré dans ce monde. C'est le danger, plutôt. Et que du coup, S'il n'y a plus de sacré dans ce monde, eh bien le monde lui-même et nous-mêmes est précipité, envoyé dans l'abîme. C'est ça la punition de Corée. C'est un danger qui menace notre religion et même avant cela notre société. Notre société humaine, où par une sorte de mise en valeur de la laïcité au-dessus de tout, on finit par créer une société dans laquelle il n'y a plus de sacré, dans laquelle la religion est écartée, dans laquelle il n'y a plus d'idéal élevé, plus de transcendance. Et alors, eh bien, ces jeunes de nos banlieues ou d'ailleurs, s'il n'y a plus de sacré, s'il n'y a plus de Dieu et plus de transcendance, eh bien, comme de toute façon nous avons besoin de sacré et de transcendance, ils vont chercher de la transcendance et du sacré et de l'absolu d'une manière désordonnée. C'est-à-dire, effectivement, dans un engagement total, dans le djihad, ou dans un engagement total, dans une action extraordinaire, au prix même de sa propre vie, ce qui est la définition même du sacré. Si on ne leur donne pas de raison de donner leur vie pour une cause positive, ils trouveront une autre cause, la première qui viendra du premier prédicateur, qui leur dira qu'il y a du sacré, et ils vont le croire. Et donc, c'est extrêmement grave. Et par conséquent, Corée, là, effectivement, est en train de mettre en place un piège dramatique qui est celui de tout aplatir, finalement, dans la société. Et si on aplatit la société vers le bas, alors la société elle-même tombe dans l'abîme parce qu'il n'y a plus rien qui la retient accrochée en haut. Et dans le protestantisme, où je vous disais, nous vivons de cette idée du sacerdoce universel, eh bien, je dirais que cela n'est viable que si on conserve une très haute idée du sacré. Et si on regarde du temps des réformateurs, certes, il y avait déjà le sacerdoce universel, mais les anciens protestants, ils ne rigolaient pas avec le sacré. Et pour eux, il y avait des choses d'une extrême importance. Les vieux protestants ne rigolaient pas avec la Bible. Ils ne rigolaient pas avec le culte, avec la prière, avec le chant des psaumes. Et nos vieux protestants avaient un immense respect pour le religieux et même, dirais-je, pour les pasteurs. Et je pense que ça sauve la religion. Et le sacerdoce universel, vous disais-je, n'empêche pas qu'il y ait quelque part une notion essentielle du sacré, c'est-à-dire qu'il y a du divin quelque part, qui est de l'ordre du transcendant et qui ne doit pas être rabaissé au niveau de n'importe quoi. Et le danger, la dérive, je dirais, possible du protestantisme, c'est de dire, oh ben, il y a du sacerdoce universel, tout le monde peut être pasteur, le culte, on y va si on veut, et finalement, plus rien n'a d'importance, les pasteurs sont des permanents de l'Église et c'est bien commode parce qu'il en faut et qu'on ne les paye pas cher, et le culte, j'irai un jour où j'y pense, et la Bible, c'est un livre comme un autre. Et dans ce cas, finalement, comme Corée, eh bien, tout tombe dans le gouffre, parce qu'il n'y a plus rien qui vaille quelque chose. Ou même, ceux qui ne sont pas forcément très religieux, mais nos anciens protestants, ne rigolaient pas avec le sacré, mais même au moins avec l'éthique. C'est-à-dire que pour eux, il y avait un devoir sacré d'être honnête, d'être travailleur et d'être droit. Eh bien, c'est déjà ça, si vous voulez. Mais si on expulse le sacré de partout, alors plus rien ne tient. Et si tout est remis à la base, et si on perd le sacré, on tombe dans l'abîme, comme Corée, et tout s'effondre. Donc il est essentiel, effectivement, comme on le voit dans les psaumes, de se rappeler qu'il y a du Dieu, et que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est notre roi, qu'il est notre Seigneur, et qu'il est lui seul l'Éternel. Après, si on lit de près la revendication de Corée, on s'aperçoit que, en fait, sa demande de sacerdoce universel, c'était surtout qu'il voulait prendre la place d'Aaron. C'est-à-dire qu'il y avait là une sorte de jalousie. Et ça, c'est une autre tentation qui est celle de vouloir prendre le pouvoir. Parce qu'en effet, finalement, ceux qui disent les pasteurs ne sont rien, par exemple, c'est pas tellement par désir de rabaisser les pasteurs que par désir de se relever soi-même en disant « je vaux au moins qu'eux » ou « les prêtres » ou « qui vous voulez ». C'est-à-dire, il y a là sous-tendu une volonté de soi-même, de se monter soi-même comme quelqu'un d'important et de se considérer comme plus important que le sacré, en quelque sorte. Et quand on veut le pouvoir pour soi, eh bien, patatras, on tombe dans l'abîme. C'est ce que dit le psaume 49 qui nous le répète. L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence, il est semblable à des bêtes qu'on égorge ou à des bêtes qui périssent. Nous grandir ne nous sauvera pas. Prétendre prendre plus de place dans la société. Corée était déjà un notable, il était riche et il voulait en plus du pouvoir. Prendre plus de pouvoir dans la société ne nous sauvera pas. Parce que, comme dit le psaume, même l'homme qui est en honneur mourra comme une bête. En effet, les rois meurent, les milliardaires meurent aussi et ne sont pas plus heureux que les autres. Et donc toute quête de pouvoir ou d'importance sociale est une quête qui ne nous avance à rien parce que, comme tout le monde, eh bien, nous serons jetés dans la fosse. C'est une fausse quête. C'est la fausse quête que l'on trouve partout, aussi bien Caïn qui veut être plus important qu'Abel, et aussi une des tentations du Christ, texte absolument en parallèle avec le nôtre, où Jésus est tenté par le pouvoir. Autre revendication que j'entends dans Nombre 16, c'est la menace d'une attitude matérialiste. En effet, Corée et ses amis disent, finalement, nous préférions les marmites pleines d'Égypte plutôt que ce chemin de Dieu dans le désert où on n'a rien à manger. Ça, c'est une bonne question. Que cherche-t-on au-delà du pouvoir ? Si notre quête est purement matérielle ou matérialiste, d'avoir plus de confort, plus de matériel, plus de richesse, alors cette quête est perdue d'avance. Parce que si nous ne regardons notre vie que sur le biais de ce que nous vivons matériellement, je vais vous dire, votre destin matériel, de toute façon, est une catastrophe. Le seul objet futur de votre vie matérielle, c'est le cimetière. Voilà. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'autre issue que la fosse et la tombe. Et ça, c'est ce que dit le psaume 49 encore. Et il se moque de ceux qui mettent leur confiance dans leurs biens, qui attachent à leur maison, qui mettent un nom sur leur terre. Et il leur dit, c'est très drôle, mais ça ne les empêchera pas d'aller dans la fosse tout pareil, comme un troupeau envoyé à l'abattoir. Mais le psalmiste dit, au verset 16, « Mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. » Et donc nous devons, je crois en ce sens, effectivement sans arrêt, éviter ce danger de Corée, qui est de croire que l'important de notre vie, ce serait le confort matériel ou autre chose, pour remettre Dieu au centre de tout. Comme dit le psaume 47 au verset 2, « Vous tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, psalmodiez en l'honneur de notre roi, car Dieu est roi de toute la terre. » Et cela peut éviter une autre erreur de Corée, qui décidément est affublée de tous les maux. Je dirais, c'est peut-être l'égocentrisme, c'est-à-dire de vouloir se passer de Dieu en pensant qu'il pourrait, par ses propres forces, tout faire sans l'aide de Dieu. Ça, c'est idiot aussi. Le psaume 44 le dit. « Ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas par mon épée, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi, Éternel, qui nous sauve de nos adversaires. » Et que du coup, cet égocentrisme mortifère de Corée doit nous inviter à essayer de l'éviter à tout prix en agissant non pas pour soi-même justement, mais pour Dieu, c'est-à-dire de se décentrer. Corée est totalement centré sur lui-même, de se décentrer pour ne plus se préoccuper de ses propres marmites ou de son propre pouvoir, mais d'agir pour Dieu lui-même. « Mon cœur bouillonne de bonnes paroles, dit le psaume 45, et je dis, mes œuvres sont pour le roi. » Mais finalement, je crois que l'erreur la plus fondamentale de Corée, telle que je l'entends là-dedans, c'est qu'il regarde vers le passé et non pas vers le futur. Et c'est là le plus essentiel. En effet, s'il est en révolte contre Moïse et contre Dieu, c'est parce qu'ils regrettent le passé. Et en fait, on ne peut pas, dès qu'on se tourne vers le passé, ou même si on se préoccupe du présent, on ne peut que tomber dans l'abîme. Et le seul moyen d'éviter cet abîme, c'est de se tourner vers l'avenir. Parce que finalement, la foi, c'est peut-être justement cette promesse que nous allons vers une terre promise. C'est ça la démarche de Moïse avec son peuple. Nous allons vers une terre promise. Et certes, peut-être que notre terre, matériellement, ne va pas tout à fait vers un mieux, mais peu importe, puisque je vous ai démontré que la dimension matérielle n'était pas très intéressante. Mais ce qui peut me sauver de cet abîme de Corée, c'est de comprendre qu'il y a un projet pour nous, qu'il y a un idéal. Et cet idéal et ce projet, c'est de croire que, quoi qu'il arrive dans ce monde, et quoi qu'il arrive même de notre propre existence ou de notre propre confort, il y aura toujours le moyen d'aimer et d'être aimé. Et que dans tous les cas, la paix ne viendra pas de nos marmites ou de notre confort, mais la paix nous vient de Dieu lui-même qui peut nous donner la paix. Et donc ainsi, si on se tourne non plus vers le passé pour le déplorer, vers le présent pour le regretter ou pour s'en plaindre, mais vers un projet, eh bien, la vie change. Et en fait, quelle que soit la durée future de notre vie, puisqu'on ne sait pas, peut-être que dans 3 minutes je serai mort, tant qu'on est vivant, il y a toujours un projet possible à faire. Et donc, il y a toujours là quelqu'un, dans 1 minute, que je peux aimer ou à qui je peux faire quelque chose. Il y a toujours un pas de plus que je peux faire vers Dieu, vers l'autre et vers la terre promise. Et donc, tant que je suis en vie, ma vie est toujours un chemin. Et tant que je vois ma vie comme un chemin, eh bien, la vie n'est que bonheur. Parce que le chemin, c'est moi qui me tourne les yeux vers un idéal, vers un avenir, vers du bien que je désire et vers lequel je peux avancer. Et en plus, le croyant a de la chance parce qu'il croit que ce chemin, il ne s'arrête même pas au moment de la mort où il ne fera plus rien, mais que ce chemin même traverse la mort pour aller vers un idéal éternel qui n'est qu'amour et bonté et félicité. Et même, disais-je, déplorer le présent, comme fait Corée en disant « mais ici, dans ce désert, on n'a rien à manger, c'est une catastrophe », c'est une horreur, parce que justement, quand on croit dans un Dieu qui nous guide, c'est ça le peuple qui croyait dans l'Éternel, qui les faisait avancer, comme le dit Moïse dans le texte d'ailleurs, eh bien Dieu vous donnera tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin. Il vous donnera la manne pour vous nourrir et l'écaille s'il le faut. Dieu ne vous laissera jamais sans aucune ressource. Comme dit le psaume 42 encore, « Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son chant m'accompagne. » Et finalement, voilà, ce que j'entends dans cette histoire de Corée, et la leçon que j'en trouve, c'est que, quelle que soit la situation matérielle, Dieu peut toujours faire en sorte qu'il en sorte du bien. C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non pas à la mode de Corée en disant « Si j'aime Dieu, alors j'aurai encore plus d'argent, plus de richesses, plus à manger, plus de pouvoir. » Mais si celui qui aime Dieu, tout ce qui lui arrive peut concourir à son bien. Et ça, c'est ce que dit aussi le psaume 84, encore un psaume des fils de Corée. « Heureux les hommes dont la force est en toi. » Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés, et même s'ils traversent la vallée du Baca, ça ne doit pas être terrible ça, ils en font une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions, et leur vigueur ne cesse de croître. Voilà ce que dit le psalmiste aux fils de Corée que nous sommes quand nous avons tendance à nous décourager. Ou encore au psaume 42, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu sur moi ? Attends à Dieu !» Oui, encore je rends grâce au salut de ta face. Et avoir un idéal pour lequel on se bat, plutôt que de penser à ces situations matérielles et personnelles, c'est ça à quoi nous invitent tous ces psaumes des fils de Corée pour éviter que, comme lui, nous tombions dans l'abîme. Au psaume 45, « Saint ton épée, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur, oui, c'est ta splendeur, élance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice, et que ta droite te montre des exploits formidables. Et puis, au-delà de tout cela, peut-être que je trouve, moi, dans le psaume 45 aussi, l'essentiel de ce qui est dit, où justement, il est question non plus de soi, mais de ses fils, c'est-à-dire de sa descendance, et peut-être même de la transmission. Parce qu'après tout, tout ce peuple dans le désert, aucun des membres du peuple du désert n'entrera dans la terre promise. Ça, c'est assez intéressant. Donc, on peut dire, eux, ben, finalement, ils vont bouffer des cailles et de la manne toute leur vie, ça ne sera pas très drôle, mais leurs enfants entreront dans la terre promise. Et ça, c'est la chose peut-être qui, justement, donne sens, c'est la question de la transmission. Et ça, même sur un lit d'hôpital, on ne peut plus faire grand-chose, mais on peut toujours transmettre ou donner même par un clin d'œil de l'amour, de l'espérance ou de la tendresse à quelqu'un. Et donc, il y a toujours quelque chose à transmettre, à donner. Et finalement, eh bien, cette transmission est aussi quelque chose qui donne sens à notre vie. Au psaume 45, « Tes fils prendront la place de tes pères ». C'est ça, plutôt que de regretter que « Ah, du temps de nos pères, c'était mieux, ils avaient des marmites pleines ». Mais tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays, et je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération. Ainsi les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Et pour finir, encore une fois une petite coquetterie intellectuelle. Corée, Korach en hébreu, ça veut dire le chauve. C'est-à-dire, Korach, ça veut dire le crâne. Et saint Augustin, dans ses commentaires des fils de Corée, connaissait pas beaucoup d'hébreu, mais suffisamment pour savoir que le crâne, en latin, ça se dit calvaria, le calvaire. Puisque le calvaire, là où Jésus a été crucifié, c'est dit dans l'Évangile être le lieu du crâne. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le calvaire. Et donc, calvaria en latin, le calvaire, les psaumes des fils du calvaire, les fils du crâne. Et finalement, ça nous renvoie à toute l'histoire du Christ, tout cela. Je vous ai parlé des tentations du Christ, qui sont exactement les tentations de Corée. Mais finalement, le calvaire, c'est le lieu de toute la souffrance du Christ. Et c'est le lieu aussi du doute possible, comme Jésus sur la croix. Mais ce calvaire peut aussi être le chemin du salut et de la vie. Si on garde confiance en Dieu, si on s'oublie soi-même pour l'infini, pour l'éternel, pour le spirituel, et alors le calvaire n'est plus un chemin de souffrance ou d'engloutissement, mais il devient le lieu même de la résurrection et de la vie. Amen.